France Inter.
Acteur, auteur et producteur désopilant passé par le conservatoire, Jonathan Cohen était commercial avant de se faire remarquer dans la série Les Invincibles, de devenir Serge le Mytho dans le programme court Bloqué avec Gringe et Aurel San, puis la série portant le nom du personnage, écrite par Kian Kojandi. On l'a vu au cinéma dans des films comme Coexister de Fabrice Eboué, Budapest de Xavier Jans, une comédie bien supérieure à ce que pouvait laisser présager l'affiche, chez Sophie Le Tourneur, Jean-Christophe Meurice, Guillaume Canet, Nakache Toledano ou Cédric Kahn. Ce fut aussi le meilleur Dali de tous les Dali, figurant dans le film hommage au peintre de Quentin Dupieux, et aussi le type littéralement collé au postérieur de Vincent Macaigne pendant tout un film signé Carverne et Delépine. Il est aussi le co-auteur, producteur et acteur principal de la série La Flamme, adaptée de la série américaine Burning Love, produite par Ben Stiller, dans laquelle il campe l'insupportable et irrésistible Marc, et dont le bêtisier est plébiscité par plusieurs membres de l'équipe. Le cultivateur de marijuana de la série Family Business sera le 19 mars dans le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, adapté du récit autobiographique éponyme de l'avocat Roland Pérez. Il joue ce dernier, mis au monde en 63 par Esther Pérez, campée par Leila Bekti, qui refuse de considérer son pied beau comme un handicap et de l'appareiller, persuadée qu'il pourra un jour marcher comme s'il en était dénué. Miracle et mère envahissante sont au programme ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, wow, la 20e heure, Eva Bester.
T'as d'une traite ?
D'une traite, ouais.
Bravo.
Mais j'ai un défibrillateur à côté.
Ah ouais, franchement, il fallait du souffle.
Bonsoir Jonathan Cohen.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Waouh, c'est
vague franc et précis. Collier.
C'est franc du collier, ouais. ça attaque direct. Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé dernièrement ? C'est dur, hein, ces derniers temps, d'être enthousiasmé de quelque chose. Hein. Allez, mes enfants.
Oh non, vous pouvez faire mieux.
Franchement, ouais, mais il faut un cerveau pour ça. Non, qu'est-ce qui m'a enthousiasmé ? Moi, je m'enthousiasme après sur des petits trucs. Hein, ça peut être un bon plat de pâtes, ça m'enthousiasme. Hein.
Alors, le dernier en date ?
Qu'est-ce que j'ai ? Il y a eu un anniversaire hier. Le gâteau au chocolat était très très bon, il m'a enthousiasmé.
Ah !
Ouais, voilà.
Bah voilà.
T'as vu, hein, ouais. On trouve.
Vous avez raté votre bac ?
Oui.
Mais vous avez exercé votre bagou légendaire en vendant des fenêtres, dans l'imprimerie, dans l'immobilier, dans la restauration.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le conservatoire ? Est-ce que c'est vraiment Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport ?
Bien sûr. non, en vrai, y a avant le conservatoire, il y a eu des écoles. Et en vrai, c'est un professeur que j'avais qui m'a poussé à faire le conservatoire. Et qui m'a dit, t'as quel âge ? J'ai 23 ans, c'est la dernière limite. Il faut que tu le passes, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, je l'ai écouté et j'ai pris la classe préparatoire et je l'ai eu.
Et vous n'aviez aucune culture théâtrale ?
Aucune.
Pendant une scène de Bérénice devant Daniel Mesguich ?
Oui.
Pareil qu'il vous disait d'allonger les féminines ou d'appuyer les masculines et que vous ne compreniez rien.
Je lui dis, moi, c'est juste que ça va jusqu'à 12, après, il ne faut plus me parler de rien.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors ?
Ben, je ne sais toujours pas.
Non, je ne vous crois pas.
Je ne sais toujours pas, ça veut dire les féminines, les masculines.
C'est pas vrai.
Non, mais après, ce qui est très marrant, c'est qu'au conservatoire, après, j'ai eu cette chance, cette malchance de ne plus faire de tragédie grecque. Donc, tout ce qui était en vert, tout ça, j'ai plus. On a fait beaucoup de moderne. Malheureusement, je n'ai pas eu la suite des féminines et des masculines. J'aurais voulu.
Vous avez joué du Lagarce.
J'ai joué du Lagarce, j'ai joué quoi ? J'ai joué du Springlebrug, on dirait que je l'invente, mais ça
ah
existe
oui.
Vraiment. Qu'est-ce que j'ai joué ? Non, j'ai joué du Shakespeare, j'ai joué plein de choses, mais plus de choses en vers, bizarrement.
Mais alors, vous venez quand même du théâtre classique.
Oui.
Et vous admirez Shakespeare, Tchekhov, Racine, vous rêvez de jouer Néron dans Britannicus.
Mon rêve.
Mais pourquoi ?
Mais parce que, en fait, j'ai toujours eu cette passion de entre des grands textes, on va dire. Parce que ça m'a procuré, je me souviens très très bien, et ça me procure toujours d'ailleurs, assez fréquemment, quand par exemple je me sens vide, ou quand je me sens rempli que de choses nulles, ça me ressource. Vraiment, les grands textes, les grands sentiments, les grands personnages, c'est comme un espèce de spa pour mon cerveau.
Qu'est-ce que vous lisez, par exemple, quand vous vous sentez vide ?
Ah bah... immédiatement Hamlet, je l'ai...
Ça aussi, vous voulez le monter ?
Ah ça, j'adorerais un jour le monter ou le jouer ou whatever.
Et pourquoi Hamlet ?
Oh, parce que l'histoire est folle et je pense que je me suis reconnu beaucoup dans Hamlet. Alors vraiment pas du tout les mêmes situations, pas la même life, mais quelqu'un qui avait du mal à agir, qui est perpétuellement en train de se questionner avant de faire quoi que ce soit. Et le être ou ne pas être, il m'habite tout le temps, tous les jours. Dans le est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on reste, on va dire, dans une forme de sécurité.
Et pourtant, vous disiez dans une interview que vous aviez une inconscience pour relever les défis, que vous vous disiez toujours, bah, je peux le faire.
Parfois. Et parfois, je sais qu'en tout cas, la réflexion, quand je réfléchis trop, ça me pollue. Mais un peu comme le personnage
d'Hamlet. C'est pas bon, la réflexion, c'est pas bon, la réflexion.
Non, en vrai, non, mais il faut apprendre à pas réfléchir, parce que très souvent, à un moment donné, tu crois que réfléchir ou penser, c'est une action? Pas du tout. C'est statique. Et à un moment donné, je m'étais perdu dans le côté trop réflexif. Et je sentais que ça m'empêchait d'avancer. Donc à un moment donné, je dis, OK, je ne vais plus réfléchir. Je vais dire oui.
Comme Yes Man.
Je suis devenu un Yes Man. Mais vraiment,
vous êtes arrivé.
Mais non, mais en vrai, je disais oui, j'avais peur de tout. En fait, la réflexion, c'est quand t'as peur, la plupart du temps. C'est que t'as peur, peut-être que Nani, peut-être qu'Alain, mais c'est un moyen assez. Assez bien fait de cacher sa peur. Et donc, à un moment donné, j'agissais pas. Et je le sentais, qu'il y avait quelque chose qui stagnait. J'en avais marre et ça me frustrait. Et donc, du coup, je dis, en fait, je vais changer de statement. Et je vais, maintenant, je vais dire oui. J'ai dit oui à des trucs qui me faisaient terriblement peur.
Comme
moi, je les ai faites. Oh, bah, je me souviens une fois, on m'avait proposé, c'était Foresti qui m'avait proposé de faire un truc au César. En Serge le Mytho, les gens connaissaient pas bien le personnage encore, et je suis allé au feu là-dedans, j'ai dit oui, j'ai assumé le truc alors que j'étais mais pétrifié de peur, et je me suis lancé, c'était un peu foireux, c'était un peu plein de choses, mais je m'en foutais, j'avais dit oui. Donc ça m'a permis en tout cas de mettre un pas devant l'autre, de me poser moins de questions, d'être plus dans l'action, de faire plus de rencontres aussi du coup, parce que du coup t'es pas terré chez toi et t'es plus dans la vie.
En 2018, vous étiez en tournée avec la troupe de l'auteur et metteuse en scène Lorraine de Sagazan, qui est venue dans cette émission pour une maison de poupées d'Ibsen, alors que vous prépariez la série La Flamme remplie de drôlatiques blagues potaches, quand même. Vous arrivez à prendre des choses au sérieux?
Bien sûr, sans être trop sérieux non plus. C'est-à-dire que moi, Lorraine, je la connais depuis le conservatoire, justement. Et même si elle n'a pas fait, on était gravité autour de ça et on se connaissait, il y avait plusieurs familles de théâtre. Et c'est quelqu'un que j'admire profondément, qui est brillantissime et qui est aujourd'hui une des plus grandes metteuses en scène françaises. Et quand elle m'a appelé pour, parce que c'était pour faire un remplacement, elle m'a dit « Ouais, je t'appelle, je sais que tu vas me dire non, mais c'est pour remplacer quelqu'un pour 8 dates. » J'ai dit « Oui, tout de suite. » T'es sérieux? Oui. J'avais une folle envie de revenir sur les planches, une folle envie juste de réapprendre des textes, d'être sur un plateau. Et j'avais une semaine pour reprendre le rôle. Et je suis arrivé le mercredi, je jouais le mercredi d'après. Voilà, sans filet.
Je sais que vous aimez aussi Strindberg, que vous n'avez aucun problème avec le drame et avec les émotions auxquelles il faut se frotter. Alors pourtant, on ne vous imagine pas du tout aller de ce côté-là. Ouais. Ça ne vous fait pas du tout peur, les émotions graves, le drame, le pathos?
Non.
Et dans la vie, vous l'éprouvez?
Dans la vie, oui, comme tout le monde.
Mais est-ce que faire des blagues tout le temps, c'est pas pour cacher ses émotions?
Si, sûrement.
Une pudeur ou...
Si, je pense qu'il y a de ça. Après, c'est entre ça et presque un mécanisme, en fait, de pensée. C'est-à-dire que certainement, ça vient de ça, une espèce de pudeur, camoufler le sentiment, et en même temps, il y a un plaisir fou à dire des bêtises, à dire n'importe quoi, à essayer de faire rire les autres. C'est... je sais pas, la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a, le plaisir avant ça ou la protection avant ça, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un plaisir et un mécanisme de pensée qui est fait comme ça.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Actor Studio, Jonathan Cohen, bravo. Vous avez incarné un personnage devenu assez illustre sur les écrans, c'est Serge le Mytho. Et petit, vous racontiez que votre père avait créé la série K2000 et qu'il fabriquait des mini K2000 pour les enfants.
Ouais.
Vous en êtes où du mensonge?
En vrai, c'est très marrant parce que moi, j'ai beaucoup menti quand j'étais petit, notamment sur mon père qui fabriquait les K2000, sur plein de trucs comme ça. Et un jour, je me suis fait gauler en train de mentir et ça m'a séché.
C'était sur une fille?
Ouais, sur un truc. J'avais trouvé une photo dans un photomaton. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire croire à tout le monde qu'en fait, elle m'avait écrit son numéro derrière. Et en vrai, les gars s'étaient amusés à appeler le numéro. Bon, ils ont tout de suite capté que c'était faux. Et j'étais, c'était la honte. Mais vraiment la honte. Et ça m'a séché en termes de mensonge. Je veux plus jamais vivre ça. Donc après, non, j'ai arrêté de mentir.
Vous mentez vraiment plus du tout ?
Oh, de temps en temps, sur des petits trucs, tu vois. Mais tu devais pas m'appeler hier ? Ouais, mais alors là, justement, ce qui était marrant, c'est que ben, le portable, là, voilà. Donc j'invente des mini-trucs comme ça et je crois que je me fais toujours griller.
Est-ce que vous arrivez à voir quand on vous ment ?
Un peu, je crois. Quand on... je crois qu'un peu, ouais. J'ai un petit détecteur à ça.
Votre don pour l'improvisation, vous avez une idée d'où il vient ? À quoi ressemblait votre imaginaire quand vous étiez petit ?
Je sais pas, mais c'est... non, l'impro, en fait, je me suis... Enfin, j'ai fait un cours d'impro un jour, et je me suis rendu compte que ça sortait tout seul, en fait. Et c'est ça qui... enfin, ça m'a donné ce goût-là, en fait.
Vous ne le saviez pas avant le cours ?
Non. Non, non, non. Je savais pas avant. La première fois que j'étais dans un cours de théâtre, vraiment, où je me suis inscrit, j'ai tout quitté, j'ai tout démissionné et tout, je me suis retrouvé, c'était un cours d'impro, et pareil, je suis parti dans un truc, et la prof m'avait dit que c'était super, et je me suis senti bien, en fait. Je me suis senti à ma place, à cet endroit-là.
Est-ce que vous arrivez à vous faire rire tout seul ?
Ouais. Non, mais c'est horrible, hein. Des fois, oui.
Est-ce qu'il y a des blagues, parfois, que vous faites, et personne ne rit et vous avez honte ?
Pas honte, non.
Bon, en fait, je me dis non. Assumé.
Bon, assumé. Et je regarde, petit clin d'œil. Pas mal, hein, celle-là. Et ça rigole.
Cette saison, le nouveau candidat qui aimerait vivre le même rêve, c'est Marc. Ce pilote de ligne depuis 20 ans a toujours aimé être proche des gens.
Monsieur,
bien qu'il ait tout pour lui, ce grand célibataire passe la plupart de son temps la tête dans les nuages. Alors sera-t-il prêt à embarquer Camille, pour son plus piloté. Beau voyage ?
Activation des petits boutons, allez !
Le 7e ciel.
Alors Marc, la femme de votre vie, s'il vous est déjà arrivé de l'imaginer, de la fantasmer ?
Oh oui.
Vous l'imaginez comment ?
La femme de ma vie, pour moi... La femme de ma vie, elle doit être belle.
Le
qu'elle
physique.
Soit belle, belle. Oh la belle, belle. Oh la belle, belle.
Très, très belle.
Qu'elle ait de la conversation. Pas trop non plus, parce que ça peut vite m'agacer. Ah oui. Qu'elle ait de l'humour, qu'elle me fasse rire. J'aime rire vraiment
très
beaucoup.
Très important. Ouais.
Rire de tout.
Vous-même, est-ce que vous avez de l'autodérision ?
Non.
D'accord.
Non, pas du tout. Qu'elle soit assez fine aussi.
Fine, intelligente ?
Non, fine, pas grosse. Vraiment.
Jonathan Cohen, c'est vous qu'on entend quand vous êtes Marc, le personnage principal de La Flamme,
ouais.
Parodie du Bachelor.
Ouais.
Vous êtes co-auteur et producteur avec Vincent Dedienne.
Et réalisateur.
Et réalisateur. Que n'êtes-vous pas, en fait ?
Je ne me suis pas occupé de la régie sur ce tournage.
Okay.
Donc, tous les savanes et les sneakers, ce n'est pas moi. Mais oui, j'étais très impliqué dans tout le process. Ouais.
Vous avez connu ça par la version de Ben Stiller ?
Ouais.
Et vous êtes dit, je veux le faire ?
Oui. Mais en fait, c'est fou parce que j'ai vraiment... je pouvais passer un temps fou avant sur Canal à la demande. Mais comme aujourd'hui, je peux passer un temps fou sur Netflix, sur Amazon, sur n'importe quoi, de regarder ce qu'ils ont. Et un jour, vraiment, je tombe sur ce truc-là où je reconnais des acteurs, en fait, les acteurs de Party Time, qui est une série américaine que j'adore. Et je vois qu'il y a le cast et je truc là-dessus et je deviens fou. Et je me dis, ça serait génial qu'on ait ça chez nous.
Est-ce qu'il va y avoir une saison 3 ?
Non.
Oh non.
Non, il n'y aura pas de saison 3, mais il y aura peut-être un truc autour de ça, ouais.
Et pas le flambeau Les Aventuriers de Chupacabra, qui est une parodie de Koh-Lanta ?
Comment
pas
ça ?
Pas de suite à ça.
Bah non, non, non. En vrai, on a essayé de faire une suite à La Flamme, en genre version avec une fille qui cherche des prétendants, et c'était littéralement la même chose avec une femme, et donc du coup, bah, du réchauffé. Si je faisais un Chupacabra avec d'autres candidats, bah, ce serait un peu du réchauffé aussi. En fait, en humour, c'est complexe là-dessus.
Pourquoi Marc ?
Pourquoi Marc et pourquoi pas ?
C'est vrai, pourquoi pas ? C'est une très bonne réponse, mais à toutes les questions.
À toutes les questions, je peux vous la faire. Et pourquoi pas ?
Non, mais non.
Non, Marc, le personnage de la version originale américaine s'appelait Marc aussi.
Ah.
Voilà.
D'accord. Qui vous fait rire dans les comiques anglo-saxons ?
Tellement de gens.
Ah oui.
Bill Burr.
Ah, Bill Burr, il est tellement énervé.
Il est énervé.
Contre tout.
Il me tue de rire. Louis C.K., comment il s'appelle ?
Dave Chappelle.
Dave Chappelle, Ricky Gervais, c'est brillantissime.
Et chez les Français ?
Philippe Jouglin, Patrice Pouliche. Mais après, bon, c'est
un peu confidentiel.
Voilà, c'est un peu confit, mais ils arrivent. Non, en France, non, il y en a des bons. Moi, il y a Baptiste Le Caplain, quand même, dont je trouve que l'univers est hilarant. Il a une... une énergie sur scène inimitable. Franchement, c'est impressionnant quand on le voit 2 heures sur scène. C'est impressionnant. Non, il y a des gars comme Roman Frissinet qui sont très bons. Après, Gad Elmaleh, je trouve que encore et toujours, ça reste le best. Je l'ai vu au Dôme, j'ai halluciné encore de tout, quoi.
Vous dites avoir la volonté de faire rire sérieusement et que le divertissement est un art noble. Qu'est-ce que ça veut dire faire rire sérieusement ?
Non, c'est remettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, le faire avec beaucoup de sérieux. Très souvent, je trouve que la comédie, elle est pas tant prise de haut, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est exigeant dans tous les domaines. C'est exigeant dans l'écriture, c'est exigeant alors dans le jeu, même si on joue des grands débiles, il faut les jouer avec beaucoup de premier degré et beaucoup, entre guillemets, beaucoup de sérieux, parce que le mot sérieux ne correspond pas, parce qu'il faut s'amuser à le faire pour de vrai. Et au montage, c'est over-exigeant, parce que c'est des timings, on peut s'arracher le crâne, faut se taper la tête contre les murs pour trouver le bon timing pour que il explose en bouche. Donc en vrai, c'est très exigeant dans tous les domaines. Et ça, les gens pensent très souvent qu'on fait que s'amuser là-dessus.
Justement, par exemple, sur une série aussi drôle que La Flamme, est-ce que vous ne faisiez que vous amuser, ou est-ce qu'il y avait des moments de tension comme dans tous les tournages ?
Il y a des moments de tension comme dans tous les tournages. Quand on n'a pas la scène, quand elle n'est pas assez drôle et qu'on se dit ça ne va pas suffire au montage, ça, parce qu'en vrai, je peux sauver des trucs au montage, mais ça, je ne vais pas pouvoir le sauver. Donc oui, on peut flipper et tout. Après, il faut quand même pas oublier le fun. Quand on fait de la comédie, il faut quand même qu'il y ait une nappe de fun à l'intérieur de tout ça, mine de rien.
Est-ce que ça vous arrive de sentir que des gens attendent que vous soyez drôle et de ne pas être drôle ?
Oui.
Et de ne pas vouloir faire l'effort d'être drôle ?
Oui, ça m'arrive, oui.
Et vous ne ressentez pas de pression ?
Après, la pression, c'est à moi ou pas de l'accepter, hein, pour qu'elle existe. Mais non, mais des fois, je sens, oui, que oui, on a envie que je sois drôle, et je suis là, je fais « Salut tout le monde !» Voilà, il n'y a rien d'autre. Mais c'est comme ça, comme dans la vie, quoi.
Est-ce que vous pleurez facilement ?
Ouais, enfin, dans la vie, je pleure pas. En fait, je peux pleurer devant un film. Mais dans la vie, non, les larmes, elles ont du mal à sortir.
Sentinelle !
Sentinelle.
Oui, bonjour, c'est Sentinelle.
Balance le flingue ! Couchez-vous et c'est parti !
Des menaces, des insultes, j'en reçois tous les jours.
Est-ce que tu regrettes ?
Oui, les rumeurs sont vraies, je ressors un nouvel album.
Elles sont à chier, tes albums,
on fait
ça.
Allez là !
Jonathan Cohen, on vous entend dans le long métrage Sentinelle d'Hugo Benamozig et David Caviglioli, que je lis d'ailleurs dans l'Obs, c'est ça ?
Ouais.
Il est drôle ?
Il est très drôle.
C'est sorti en septembre sur la plateforme Amazon Prime et vous y jouez François Sentinelle, un flic qui est aussi chanteur.
Ouais.
Comment vous êtes préparé à ce rôle ?
Est-ce que j'ai pris les cours de chant ? Est-ce que j'ai pris les cours
oui,
de flic ?
Oui, de harpe.
Des cours de flic et de chant.
Ouais.
Non, j'adore chanter.
C'est vrai ?
Ouais, j'adore chanter. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Dès que je peux chanter quelque part, on m'en donne un cœur joie.
Vous avez pris des cours ?
Un peu au conservatoire, mais c'est vrai que j'adorais les cours de chant au conservatoire.
Vous voulez chanter, là ?
Non.
J'ai failli me lancer. Oui, j'ai vu que vous aviez commencé.
J'étais un peu yes-man, après je vois, alors... j'ai pas les vocals.
Bon, bah, alors j'appelle quelqu'un d'autre qui pourra peut-être chanter.
Bonjour, Orelsan. Bonjour, c'est fucking Fred.
Enchanté.
Moi, là-bas, je voulais juste qu'il fasse Serge le Mytho sur scène, tu vois.
C'est moi, je suis fucking Fred, avec un F comme fucking Fred.
J'ai une piqûre. J'ai une vraie piqûre.
Regarde, c'était fou. Et c'est ça, ma vie, gars. C'est ça, ma vie.
C'était très, très gaulerie et ça aurait peut-être dû s'arrêter là.
Et un jour.
Ouais, Joe, est-ce que ça te dit de faire ton premier vrai concert de fucking Fred ?
Par contre, je préviens, on n'a qu'une semaine.
Moi, je suis un félin.
Love you, love you.
Mais je suis pas un félin dans une cage. Moi, je suis un félin dans la jungle. Comme un léopard.
Documentaire parodique réalisé par Clément Cotentin, Fucking Fred comme un léopard, et sur Prime Video depuis le 27 février dernier. Jonathan Cohen, vous y partagez l'affiche avec Orelsan. Alors, qui est ce Fucking Fred imaginé en 2019 lors d'un concert ? Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Sacha Baron Cohen.
Ben, y a un peu de ça aussi.
Ali G, par exemple.
Ouais, Ali G ou d'autres persos comme ça.
Mais qui ne lâchent pas, même dans le réel.
C'est ça, sauf que moi, je pourrais pas pousser le cran jusque-là. Eux, ils ont un verrou qui a vraiment sauté dans leur cerveau, qui peuvent faire vivre des... Je pourrais pas me... j'aurais trop peur de mettre mal à l'aise les gens dans la vraie vie, par exemple. Ça, c'est ma limite. Mais celui-là, ce plaisir de jouer un perso qui sort de nulle part et de pousser le délire encore plus loin en faisant ce nouveau doc qu'on a fait justement avec Aurèle, de se dire comment on pousse ça, ça m'excitait beaucoup. Et puis on l'a, c'est total en impro, c'est ça qui est génial.
Parce qu'il paraît que vous avez créé un morceau dont vous avez oublié les paroles immédiatement.
Mais
sur scène.
Oui.
Ça s'appelait comment?
Allez.
Allez-y.
Ça s'appelait, je crois, ma bite. Mais c'est marrant, j'ai plus de mal à l'assumer à 45 piges à l'époque.
Donc vous l'avez inventé et vous l'avez oublié immédiatement.
Bah oui. Mais parce que c'est comme ça que ça se passe. Je crois que ça prend des jours avant de connaître une chanson par cœur. Là, on vient, elle sort du four et je dois la délivrer à des gens. J'ai immédiatement oublié tout sur scène.
Quelles sont les prochaines chansons?
Ah bah, qui sont les chansons tirées du dernier doc qu'on a fait justement avec Aurèle. Il y a Les Limites, il y a la chanson en allemand, il y a TDB, il y a...
C'est quoi la TDB, qu'est-ce que c'est l'acronyme?
Les gens sauront TDB, chanson qui est sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Et sur la chanson... les haters.
Et la chanson en allemand?
La chanson en allemand s'appelle Mutter. Mutter, qui veut dire... c'est une chanson sur la mère de Fucking Fred. Et les limites, c'est bon, c'est clairement, vous avez des limites. Moi, j'ai pas de limites pendant une heure. Et
Est-ce que vous avez des limites?
Oui, j'en ai plein. J'en ai plein et en même temps, j'essaie de les faire sauter de temps en temps, mais Fucking Fred, lui, n'a pas de limite.
Et vous cohabitez avec lui, vous aimeriez bien qu'il prenne plus votre place?
Pas du tout. Franchement, je pense que ce serait catastrophique. Il est bien content, qu'il soit là où il est.
Les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, mettre de fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée.
Qu'il roule comme...
plagierie puisque hors antenne, vous me demandiez pendant la chanson combien de temps durait l'émission.
C'est pas parce que je me fais chier, c'est vraiment pour savoir le temps que vous aviez, pardon, je vous tutoie,
oui.
On n'est pas sur la même...
Non, en plus moi j'aime pas qu'on me tutoie quand on me connaît pas.
Pardon, bah alors...
Ça vous arrive sur les réseaux sociaux?
De quoi?
Qu'on vous tutoie?
Tout le temps.
Et vous répondez comment?
Je réponds pas.
Mais c'est la meilleure des réponses.
Non mais en vrai c'est pas tant parce qu'on me tutoie que je réponde. Non, dans les réseaux sociaux moi je regarde, voilà, un petit peu, je réponds rarement. Mais dans la vie oui, on me tutoie tout le temps. Les gens me tapent dans le dos.
Et vous ne mettez pas de limites?
Bah après j'ai, comment dire, ça me dérange pas. Enfin c'est pas tant qu'on me tape dans le dos comme un vieux copain, c'est-à-dire que je peux faire un regard pour que les gens comprennent que ça peut me saouler. Mais non, mais en vrai je pense qu'il y a une proximité là-dessus avec les gens.
Oui, les gens vous appellent par le nom de vos personnages.
Joko, ou par les noms des persos, ouais.
Serge, Marc.
Ouais, chacun décide, ouais.
Alors là, j'ai pas dit ce qu'on venait d'écouter, mais c'était Sylvie Vartan. Mais
j'avais bien reconnu.
L'amour c'est comme une cigarette.
Oui.
Et voilà pourquoi.
Ça c'est une pépite, hein, ça. C'est collector. Hein. C'est 19 novembre 61, c'est la première apparition de Vartan à la télé. 1966, c'est vraiment une année très importante pour Vartan. C'est la naissance de David, c'est les rumeurs de séparation avec Johnny. Et ce que très peu de gens savent, c'est que Vartan est totalement fasciné par Jérôme Bosch, le peintre du Moyen-Âge. Ensuite, il y a un premier 45 tours en néerlandais, un premier 45 tours en allemand, un premier 45 tours en espagnol. Et c'est vrai qu'en y regardant d'un peu plus près, dans ses scénographies, dans ses clips, même vestimentairement parlant, on sent l'empreinte de Jérôme Bosch, ouais, qui est né à Bois-le-Duc en 1450.
Jonathan Cohen, vous jouez dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott en salle la semaine prochaine avec Leïla Bekti, Sylvie Vartan, Joséphine Japy et Jeanne Balibar. Est-ce que vous avez lu le livre de l'avocat Roland Pérez dont le film est inspiré?
Non.
Est-ce que vous le connaissez?
Oui.
Vous l'avez rencontré?
Oui.
Il est sympa?
Adorable. C'est une personne délicieuse et adorable, franchement.
Et c'est vraiment l'histoire de sa vie?
C'est littéralement l'histoire de sa vie.
Et alors vous pouvez la raconter, cette histoire, sans trop en dévoiler?
Ah ok, je resitue tout, années 80, début du hip-hop. Non, pas du tout, je me suis dit n'importe quoi.
En 1515.
Vrai, c'est ce jeune garçon... Roland Pérez, qui dès sa naissance est né avec un pied beau. Voilà, qui a une déformation du pied, qui a, il y a 90% de chances qu'il soit handicapé, qui ne marche jamais normalement, qui boite toute sa vie. Et sa mère refuse tous les diagnostics.
Leïla Bekti,
qui refuse tous les diagnostics, qui ne veut pas croire une seule seconde que son fils sera handicapé et qui se fait la promesse que la première fois qu'il ira à l'école, ce sera en marchant. Et par un miracle arrive, et un nombre de péripéties aussi qui font que elle arrive à accomplir ce miracle-là. Et puis après, il y a une deuxième partie de film où je suis dedans, pour le coup, où le personnage est adulte, et c'est comment maintenant il va arriver à s'affranchir de cette mère qui a accompli un miracle, qui lui a donné un peu la possibilité d'avoir la vie qu'il a eue. Et ça, c'est notre paire de manches.
C'était pas étrange de jouer le fils de Leïla Bekti, qui est plus jeune que vous et qui est amoureuse de vous dans La Flamme?
C'était très étrange. Mais en vrai, c'est pour le coup, ça fait partie des défis où je me dis, tiens, c'est intéressant de se confronter à ça. C'est intéressant de défier un peu les lois de la gravité à cet endroit-là et des avis et de whatever. Je me dis, tiens, c'est... parce qu'avec Leïla, en plus d'être très amis, on a eu... Après La Flamme, Le Flamand, on a eu envie de faire tellement de choses ensemble. Et c'est vrai que ce film, quand il est arrivé, on s'est dit, ah, il y a quelque chose à... C'est intéressant qu'on le vive ensemble, ça.
Donc en tout cas, la mère qui est jouée par Leïla Bekti a honte de ce secret. Elle dit d'ailleurs souvent à son fils de ne pas le révéler.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà eu honte de quelque chose de physique?
Moi, je suis le mec le plus complexé de France. Donc oui, j'ai honte de plein de choses.
Toujours?
Moins, Dieu merci. Mais quand j'étais ado, jeune adulte, complexé, ouais. Méga complexé, il y a eu une période où, quand j'étais plus jeune, j'avais piscine en t-shirt. Mais, les complexes, je vois très bien ce que c'est, les complexes.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce scénario?
Alors c'est un scénario, déjà, c'est rare les scénarios où tu pleures comme ça à la fin. Moi, parce que certainement que le sujet me touche énormément, mais comme ça parle des mamans et des parents, tout ça, moi je me suis effondré en larmes quand j'ai lu la première fois le scénar. Et j'étais vraiment comme ça, mais pendant longtemps, pas des petites larmichettes, hein, des sanglots. Et puis, j'ai l'impression quand même que le parcours de Roland, au-delà du point de départ qui est lié au handicap, tout ça, en tout cas la deuxième partie me touche beaucoup parce que j'ai un peu une maman qui est comme le personnage et qui est, que j'aime profondément, qui est un personnage haut en couleur, qui a joué d'ailleurs ma mère dans Énorme. Et
Sophie Le Tourneur.
Donc, qui est un petit léopard aussi et qui est voilà, qui est incroyable en même temps, voilà, parfois un peu intrusif, tout ça, mais qui reste néanmoins une personne que j'aime plus que tout et à qui je dois tout. Et il y a cette phrase à un moment donné dans le film où il la remercie pour cette vie merveilleuse, et en vrai c'est un moyen aussi pour moi de lui témoigner ça, de la remercier.
La mère dans le film a une foi inébranlable en le destin de son fils. Est-ce que vous avez déjà cru en quelque chose concernant votre destin avec la même ardeur ?
Non.
Est-ce que vous avez la foi ?
Ouais, d'une certaine manière, ouais. Mais c'est dur, moi, je trouve, de garder la foi. Elle vacille, c'est absolument pas quelque chose d'acquis. Elle est questionnée tout le temps, elle est mise en doute, mise en échec parfois. Et pour retrouver de la foi dans les choses auxquelles on croit... Faut remettre les gants quand même. C'est pas une constante, comme la confiance. C'est pas une constante. C'est pas quelque chose qui est acquis. Lui, il a confiance en lui. Oui, le lendemain, il est au fond du trou. C'est des choses, je trouve, pour lesquelles il faut un peu se battre pour garder une foi en tout, en l'humanité.
Comment on se bat quand on est tout en bas?
En acceptant déjà.
Vous y arrivez facilement ?
Non, pas toujours. Non, non, c'est en acceptant, en étant un peu parfois résilient, patient. Le temps aussi, hein, ça aide. Hein.
Vous êtes patient ?
Non. Non, c'est pour ça que tout est une bataille.
Bah oui,
c'est
que
je n'ai aucune de ces qualités-là. J'ai aucune de ces qualités-là, donc tout est une bataille pour essayer d'être un peu bien dans ses pompes.
Est-ce que vous avez une vie spirituelle, quelle que soit la forme de spiritualité ?
Oui. Ouais, ouais,
vous cultivez aussi, parce que ça peut être vacillant, ça aussi.
Bien sûr. Vraiment, ouais. Alors, je fais de la méditation, ça m'aide. Parfois, à calmer toutes les anxiétés, tous les trucs, tout le tumulte et tout. J'essaye d'être dans la gratitude, de remercier la vie pour tout, quand même. Et ça m'aide quand même, d'être dans la gratitude, mine de rien. Alors, ça paraîtrait... On appelle ça les bouquins un peu...
Oui, de développement spirituel, mais en fait, c'est le plus difficile.
Mais en vrai, c'est juste être un peu reconnaissant des choses. Déjà, ça permet de prendre un petit peu de hauteur et de dire, ouais, merci quand même. Même si on a plein de galères, plein de trucs, d'être dans la gratitude, c'est pas mal.
Est-ce que je peux parler d'urine ?
Bien sûr. Pourquoi ?
Parce que vous urinez dessus à un moment quand votre idole passe à côté de vous dans le film, c'est Sylvie Vartan.
C'est même pas moi qui le fais, c'est un mini-moi qui le fait.
Oui, c'est un mini-vous, mais c'est le futur vous.
Ouais.
Et donc, je voulais savoir qui étaient vos idoles. Ou qui ont été vos idoles.
Mes idoles. Idole. En fait, moi, je suis ce qu'on appelle un fanboy. C'est-à-dire que je suis fan de beaucoup trop de gens. C'est-à-dire que, mais vraiment... Je suis fan de Will Ferrell, mais à un point fou, de Steve Carell, et même de gens aujourd'hui, enfin, je suis fan de Benoît Magimel, que je trouvais être un immense acteur, et à chaque fois, il me bouleverse dans Pacifiction, il me casse en mille. Je suis fan de Pierre Ninet, je suis fan de plein de gens, je suis fan de Justine Triet, je suis fan de Monia Chokri. Je suis fan de tellement de gens, en fait.
Dans le film, on apprend que Proust est l'auteur préféré de Sylvie Vartan. Quel est votre rapport à la lecture ?
Justement, un bouquin de Proust que j'ai adoré, c'est un bouquin sur la lecture, justement. Qui est un tout petit livre, qui parle de son rapport à la lecture, qui parle de... En fait, il, c'est marrant parce qu'il répertorie les différents types de lecteurs. Ceux qui lisent pour se la raconter à table, ceux qui ont juste besoin de se dire qu'ils ont lu, et d'autres qui voyagent au travers des livres. Et c'est un très beau livre de Proust, qui est tout petit.
Il fait quatre... comment
Sur la lecture, je crois, un livre sur la lecture.
Et vous faites partie de quel groupe de lecteurs ?
C'est des trois. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est très marrant parce que je pense que... Il y a différents steps, il y a effectivement cette culture qu'on veut donner, je suis pas con, hein, je suis pas stupide, hein, je suis cultivé, qui fait partie de tout le monde, voilà. Et l'autre où, oh bon voilà, j'ai lu, au moins c'est fait, et l'autre où tout d'un coup on se remplit vraiment. On est les trois tout le temps en fait. on voyage là-dedans. Mais moi, je sais que mes lectures, moi, j'aime lire du théâtre. J'aime ces histoires-là, plus
par
que
exemple,
des romans.
Les dernières pièces que vous avez lues.
Que j'ai relues même. Qu'est-ce que j'ai relu qui m'a fracassé? Ah ben là, en fait, là, ces derniers temps, j'ai relu Le Roi Lear. Le Roi Lear. J'ai relu quoi encore?
C'est tragique, Le Roi Lear.
Et c'est très drôle.
Tellement injuste. Non, vous trouvez ça drôle? Parce que moi,
non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. J'ai relu La Cerisée aussi. J'ai
oh là
relu.
Là,
Mais c'est
sublime.
J'ai relu Ivanov. J'ai relu tout ça. Mais j'ai relu comment il s'appelle? Platonov. Platonov qui.
Vous
est...
adorez Tchekhov.
Je suis un fou de Tchekhov. Un fou de Tchekhov.
Qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
Ce qui me plaît chez lui, c'est déjà quelqu'un d'immensément drôle, Tchekhov. Il y a un humour chez Tchekhov que je trouve exceptionnel,
c'est
des
vrai.
Personnages...
En plein milieu du drame.
En plein milieu du drame. Il raconte cette mélancolie, il raconte cet ennui chez les Russes, dans leur petite datcha, qui se font chier. Parce qu'il raconte très bien la campagne. Il raconte très très bien. Alors, il raconte toujours, il fait toujours opposition avec la ville, où il se passe tout, tout le monde a une vie de dingue en ville, alors qu'ils se font chier, ils ont un peu d'oseille, mais tout est en décrépitude. Et c'est magnifique comment il nous le donne, ça.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Qu'on entend Jonathan Cohen?
On entend. Attends, il faudrait que
Omar
je reprenne mon portable.
Et
Omar Apollo
César.
Et Daniel César.
Le morceau.
Il s'appelle Invincible.
Et vous avez joué dans quelque chose qui s'appelait pareil.
Les Invincibles, ouais. Absolument. Et c'est vraiment pas lié à ça,
non? Non, je sais, mais j'adore quand c'est pas lié.
Oh là là. Les mots, vous en faites quoi? Vous jonglez avec.
Je jongle
tout simplement.
Avec. Je
vous boxez avec les mots.
Comme Cabrelino d'Arsenic. Bon, pourquoi ce morceau?
Parce que je l'adore et qui m'a accompagné sur tout un tournage là récemment avec Magali Lépine Blondeau, qui est une immense actrice. Ouais, alors je préfère dire, elle a rigolé parce non. que le nom est à mon avis voilà un peu épique, mais elle est canadienne et c'est normal, d'accord. Lépine Blondeau là-bas.
Moi j'adore les Canadiens.
Mais moi aussi je suis fan des Canadiens.
Ouais.
Et c'est une immense actrice qui jouait dans le film Simple comme Sylvain. De Monia Choukri,
ah bah
actrice principale.
C'est un film absolument charmant.
Charmant, et moi je trouve même plus que ça. Et j'ai eu la chance de jouer avec cette actrice incroyable. Et c'était la chanson du...
C'est l'héroïne de ouais. Simple comme Sylvain.
Oui.
Elle est magnifique.
Magnifique.
Ah ouais. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi The Apprentice sur Trump d'Ali Abbasi.
Oui, parce que bon, bah, y a tout ce qu'on est en train de vivre.
Pff, ouais. Bah, vous voulez
voilà.
commenter?
Non, mais allez voir le film, vous allez voir comment le monstre se crée. Voilà.
Oh ! Encore !
Monsieur Dali, bonjour. Pardonnez mon intrusion dans votre magnifique propriété, mais c'est une urgence. Un ami à moi, expert en art et collectionneur averti, soupçonne ce tableau d'être un faux.
Montrez-moi. Eh bien, madame, votre ami a tout à fait raison, c'est un faux.
Un faux ?
Oui ! Je n'ai jamais peint cette monstruosité. Vous voyez bien que c'est une sombre merde. Paul ! Voilà.
Vous êtes un des Dali de Quentin Dupieux, Jonathan Cohen. Comment vous êtes entraîné à l'imiter ? Est-ce que vous avez vu des documentaires sur lui ? Est-ce que vous l'avez écouté ?
J'ai tout vu. J'ai tout vu, je crois que j'ai épuisé tout YouTube de Dali et je me le mettais en boucle dans les oreilles, je voyais, j'ai tout vu. J'ai tout vu, tout ce que je pouvais voir, j'ai vu, vraiment. Donc ouais, en plus j'avais très peu de temps pour préparer parce que bah, j'ai remplacé quelqu'un encore au pied levé. C'est un peu...
Vous êtes un remplaçant en fait.
Ouais, enfin, ça arrive très souvent, l'année dernière c'était une année assez où j'ai remplacé, ouais. Mais pour voilà... je suis heureux, parce qu'au final, j'ai pu travailler des gens exceptionnels. Et celui-là, ouais, j'ai remplacé quelqu'un au pied levé. Je devais jouer un autre rôle dans ce film. Et puis, Quentin m'appelle, il me dit « Ouais, putain, je suis en galère. Est-ce que tu veux pas faire un Dali ?» J'ai dit « Mais immédiatement, oui. »
J'ai lu dans une interview que vous étiez souvent frustré parce qu'à chaque fois que vous faisiez des films, vous espériez que quelque chose arrive et ça n'arrivait pas. Et qu'à 35 ans, vous avez, je vous cite, « lâché l'affaire et décidé de kiffer. Dans ce métier, dès que tu lâches la bride, il se passe quelque chose. » Est-ce que ça correspond au fait d'être soi et d'enfin se ressembler alors qu'on essaye quand même, pendant toute la première partie de sa vie, de ne pas être soi du tout et d'être autre ?
Ouais, je crois que vous avez raison là-dessus. En fait, on attend toujours que ça marche. En vrai, on est à un certain âge, on est là, est-ce que les gens vont me voir ? Est-ce que c'est le rôle qui va changer ma vie ? Non. Et en fait, on ne sait jamais quel rôle va changer quoi que ce soit. C'est pas l'objectif. Et puis, ça nous dépasse, en fait. S'il se passe un jour quelque chose, ça nous dépasse. Et moi, j'étais frustré, non pas qu'il se passe pas tant de choses, mais j'étais frustré à plein d'égards. J'étais frustré... parfois des rôles que j'avais, même si j'avais de la chance de travailler, mais j'étais pas... parfois des limites qu'il y avait dans les films où je me dis, putain, on pourrait aller faire ci, faire ça, aller plus loin, aller plus truc. Et en vrai, c'est pas ton film déjà, donc non. Et à un moment donné, donc, j'étais très malheureux de tout ça, parce que je souffrais trop de ce métier, parce que c'est un métier qui est merveilleux, mais qui peut aussi faire beaucoup souffrir psychologiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on devient son métier, quand on ne dissocie plus son métier de soi-même, ce qui est vraiment la dérive dans l'art, c'est qu'on mélange tout et on fait une super scène, on est heureux, on plante une scène, et on a envie de crever, on a un casting, ah putain, la vie elle est incroyable, on n'a pas un casting, c'est pareil, c'est la pire journée de sa vie. Donc quand tout est lié à ça, y a un truc qui n'est pas au bon endroit, et à un moment donné, je dis, attends, voilà, j'ai des potes déments, j'ai peut-être d'autres talents. Enfin, je veux dire, vraiment, en fait, je vais vraiment dissocier ce métier. Si c'est des trucs qui me font pas kiffer, je les ferai pas. Et je veux kiffer ma vie, en fait. J'en ai marre à chaque fois d'être l'esclave de mon métier, en fait. Et bizarrement, au moment où j'ai véritablement lâché prise, il y a eu Serge le mytho. Et ça a changé ma vie, pour le coup, radicalement.
Merci beaucoup Jonathan Cohen.
Merci à vous. J'ai vu que j'étais trop long sur la fin parce que vous faisiez des têtes comme ça un peu genre.
Non, j'opinais du chef, mais parce que je me disais que c'est une fin parfaite.
Ah d'accord.
Ouais, parce que je calcule tout évidemment en fonction des secondes.
D'accord, oui, c'est vrai qu'à l'horloge.
Et là, je me disais c'est super. La fin
nickel,
est parfaite.
Ça me fait bien plaisir.
Mais là, par contre, on déborde. Donc
ah,
je vais conclure.
Faudra couper.
On peut pas, on est en direct.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott sortira en salle le 19 mars.
Ouais.
Le mockumentaire Fucking Fred comme un léopard est sur Prime Video depuis le 27 février dernier.
Absolument.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Tilaï Ravu.
Et Flavio ?
Flavio, je le cite pas, je lui parle plus.
Ok, je comprends.
Vous lui parlez ?
C'est pour ça que je suis venu à l'émission, c'est pour Flavio.
Flavio ?
Ouais, je suis très déçu.
Il n'existe pas en fait.
Oh, un personnage fictif encore.